Ce sera l'un des plus grands bouleversements des 10 prochaines années. Le bureau, cet endroit où depuis 200 ans les gens se sont rendus tous les matins pour travailler, a été une victime de la pandémie. Une autre, et ne sera plus jamais pareil. Comment se transformera-t-il? Qu'est-ce qui reviendra comme avant? C'est une question à plusieurs centaines de milliards de dollars. Je m'appelle Laurent Therrien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, re-bienvenue. Partout à travers le monde, les employeurs, les employés, les propriétaires d'immeubles et les gouvernements se posent la même question. Qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux? On y revient? On les abandonne? On les transforme? La réponse à cette question-là va bouleverser le rôle des villes. Elle a des implications juridiques, des implications morales. Elle a en fait le potentiel de changer le cours de nos vies. Le problème, c'est que les réponses diffèrent considérablement d'une personne à l'autre. Je vous donne un exemple. Le PDG de la firme d'investissement Brookfield, qui s'appelle Bruce Flatt, disait encore cette semaine au Financial Times que les travailleurs vont retourner, selon lui, beaucoup plus vite, en fait, dans les tours à bureau qu'on l'imagine, et que tous ceux qui croient que le télétravail va devenir la norme après la pandémie se trompent. À l'inverse, vous avez le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a déjà dit que ses employés pourraient travailler de la maison pour toujours et que les entreprises qui vont l'empêcher vont vite tomber dans l'obsolescence. Alors, gros débat, cette semaine, on va parler du bureau, de ce qui va changer, mais aussi de ce qui va revenir un peu comme avant. Julie Pomerleau, bonjour.
Bonjour.
Julie, tu es directrice en marketing chez Nespresso Canada depuis 2017. Tu es originaire de Québec. Tu travailles dans l'industrie agroalimentaire depuis plus de 20 ans. Bienvenue à Pour votre info.
Merci beaucoup.
Jean-François Berthelet, salut.
Salut.
Tu es chargé de cours à HEC Montréal, auteur pour la revue Gestion, consultant en développement organisationnel. Tu animes un balado aussi, mais on est pas des compétiteurs, vraiment, là, on est des amis. T'animes Travailler mieux sur Radio-Canada Audio, t'es spécialiste de la reconnaissance, de la mobilisation du climat de travail et tu aides des grandes comme des petites business à mieux mobiliser leurs employés. C'est pas pire comme description?
Je confirme que c'est bien moi.
OK, c'est bon, parfait. Je vais commencer avec toi, Jean-François, juste pour qu'on installe la base ensemble. Je lisais récemment que le futur du travail, le futur du bureau, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire des gens qui se déplacent, des gens qui ne se déplacent pas, des gens qui travaillent du bureau, d'autres qui font un petit peu des deux. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là?
Si on oublie le confinement, on va être beaucoup dans la flexibilité. C'est-à-dire que le futur du travail, puis j'étais avec un client il y a à peine quelques heures, puis c'était ça la discussion, c'est comment on va faire pour ramener le monde au bureau, tu sais? Et là, la question, c'est bien, c'est pas si vrai que ça, parce qu'il y a plein de gens qui veulent revenir au bureau aussi, mais ils voudraient pas revenir au bureau 5 jours par semaine, nécessairement. T'sais. Donc là, la question, ça va être peut-être que ça va être la flexibilité qui va ressortir beaucoup, mais je veux pas être obligé de venir au bureau pour rien. Ça n'a aucun sens que je passe 2h30 dans le trafic quand j'ai pas à travailler avec personne. Mm-hmm. Mais par contre, l'absence totale de bureau, on se rend bien compte des limites de ça.
C'est comme si la pandémie avait, Jean-François, d'une certaine manière, révélé que plusieurs bureaux étaient en fait des genres de reliques d'un autre siècle, là.
Ben oui, tu sais, puis pense au cubicule traditionnel où je vais là, je parle à personne, la façon dont on designait certains bureaux. Tu sais, je me souviens d'un neuropsychologue qui disait, si tu veux designer des environnements de travail pour nuire au cerveau, fais-moi un cubicule, tu sais. Donc,
ça semble, c'est clair.
Ben, tu sais, c'est surtout quand on veut de la créativité et tout ça, ça marchait pas, tu sais. Par contre, on voit qu'il y a certains types d'espaces de bureaux qui permettent d'augmenter la créativité, l'innovation, puis surtout les interactions, parce que c'est ça qui nous manque, hein. Les interactions, on a beau les faire sur Zoom, sur Teams et tout ça, mais il y a une belle citation de Mintzberg cette semaine que je lisais, qui disait « Est-ce que tu es tombé récemment sur quelqu'un dans un meeting Zoom? » Tu sais, en anglais, il disait « Have you bumped into someone recently? »
Ouais, ça n'arrive plus, les rencontres, l'espèce de rencontre informelle, toute la portion informelle du travail est un peu disparue.
Ben ouais, puis tu sais, exemple, Laurent, peut-être que nous-mêmes, on s'est rencontrés comme ça informellement, j'ai discuté avec toi.
Puis on ben a oui, jasé. T'as raison.
Mais sinon, tu sais, je t'aurais pas contacté sur Zoom. Veux-tu me booker un appel, Laurent? On aurait dit, ben pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison.
On est comme gêné hein, aussi de faire ça.
Oui, il n'y a pas de raison. Fait qu'il faut comme créer des activités là, d'une certaine façon pour que les gens se croisent. Mais c'est dur de se croiser sur Zoom, pour dire ça.
Julie, de votre côté chez Nespresso, vous avez, puis je pense que c'est pas très connu ça, mais vous avez une vision assez juste, je pense, du futur du travail, de par les recherches marketing que vous faites, au sens où vous devez comprendre comment mieux servir vos clients, et pour faire ça, vous devez comprendre leur réalité. Est-ce que vous en avez fait des recherches dans les derniers mois? Puis si vous en avez fait, qu'est-ce que vous observez?
Oui, c'est certain qu'on regarde toujours là, à mieux comprendre le consommateur en général, pas juste dans sa partie de travail au bureau et tout ça, mais pour le comprendre et mieux lui communiquer, le rejoindre, puis comprendre ses besoins. Ce qu'on a vu beaucoup dans les derniers temps, c'est qu'il a beaucoup changé ses comportements, comme on l'a vu, que ce soit ses comportements d'achat, ses comportements au niveau du travail, et qui veut que ça continue. Donc, le consommateur, puis un petit peu au même point qu'on vient de parler, il ne veut pas retourner exactement où il était avant.
Ouais.
Donc, ils ont commencé à acheter plus en ligne, ils ont utilisé plus le mobile. Ils disent que ça va continuer la façon des livraisons aussi au niveau du consommateur. Ils ont expérimenté avec différentes méthodes et on sait que ça va continuer. À quel niveau? C'est toute la question. On sait que le consommateur cherche aussi, puis je pense que c'est ce qu'on parle dans l'informel, mais au niveau du café, tu avais tout le moment autour de la machine à café qui leur manque un petit peu.
C'est vrai.
Et ils cherchent le consommateur avant avait l'option d'avoir son café à la maison en allant dans un coffee shop et celui qui arrivait au bureau. Mais là, tout se retrouve à la maison. Donc, il veut retrouver ça à quelque part dans son environnement de maison tout le temps. Donc, c'est là-dessus qu'on voit quand même des changements au niveau du consommateur.
Bien, parlons-en d'abord, parce que c'est fondamental. Là. Et toi, Jean-François, et toi, Julie, vous l'abordez, la question des, j'ai appelé ça des weak ties, là. Tu sais, les liens qui nous unissent, mais qui ne sont pas des liens formels de travail avec un projet à remettre. Disons qu'on se projette un peu dans le temps, puis qu'on s'imagine, on est en 2022, 2023, la pandémie est derrière nous, mais le travail a changé. Comment est-ce qu'on recrée cette culture-là de weak ties? À votre avis?
Le danger avec ça, c'est l'érosion dans le temps, l'érosion des réseaux. Ce qu'on découvre, c'est que sur le coup même, on dit « Ah, les gens se parlent, les gens restent en contact et tout ça », mais c'est dans le temps qu'on va voir l'effet de ça. Puis ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des gens de proximité, des bons collègues ou des gens très proches de nous dans la structure à qui on parle autant qu'avant. Mais les gens qui sont un peu plus loin, les gens que je croisais une fois de temps en temps, mais c'est le risque qu'on perde ces liens-là. Et là, si on ne crée pas ces occasions-là informelles, c'est sur la durée qu'on va voir qu'on va recréer les bons vieux silos. Puis, tu sais, on essayait de se battre pour contrer les fameux silos dans les organisations, mais là, il y a des gens à qui on ne parle plus jamais. Tu sais. Et il y a bien des interactions, des fois, à penser dans le temps. Le party de Noël, c'était enfin l'occasion où je discutais avec quelqu'un avec qui je n'avais jamais parlé. Puis là, après ça, on était moins gênés de l'appeler. Tu sais, ben là, la machine à café, c'est un peu ça aussi dans le milieu du travail. Là.
Oui, exactement. Je veux dire, quand on regarde, puis ton point est excellent, là, on parle encore surtout les gens très proches de nous qu'on interagit à tous les jours. Mais si moi, je prends dans toute l'équipe marketing, malheureusement, il y a des gens que je n'ai pas l'occasion de reparler à tous les jours. Et c'est des gens que je croisais le matin en arrivant en allant me chercher un café, à la pause, etc. Et cette interaction-là était super importante. Et c'est ce qu'on voit que les gens manquent. Les gens sont fatigués du télétravail à 100%. Ils veulent se retrouver au bureau, pas nécessairement pour la partie de faire du travail, supposons, très concentré, parce que ça, on a quand même trouvé que, encore une fois, on a dû s'adapter à une nouvelle réalité, mais on a fonctionné quand même assez bien. On fait nos teams, on est capable de livrer nos chiffres, si je peux dire, nous livrer des plans.
Ouais.
Mais il y a de l'informel qui nous manque. Et ça, bien, c'était riche aussi d'interaction avec des gens, aussi d'autres départements, des fois que tu voyais moins. Et encore une fois, c'était souvent des moments autour de la machine à café. Et ça nous manque beaucoup. Puis les gens ont besoin, nous, les employés, nous l'ont dit, qu'ils voulaient revenir au bureau.
Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, disons, une fois que les gens vont avoir trouvé un peu leur équilibre, projetons-nous dans 5 ans, il est possible que des employeurs recommencent à exiger une présence en personne, par exemple. Je ne veux pas dire qu'on retourne dans nos vieilles pantoufles, mais c'est un peu ça.
Nous, ce qu'on voit un petit peu, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui les gens veulent revenir, mais ils ne veulent pas revenir à 100%. Ils ne veulent pas revenir à temps plein. Je pense qu'il y a de l'efficacité qu'on est allé chercher. Tantôt, Jean-François mentionnait, là, surtout au niveau du temps à tous les jours et tout ça. Donc, je pense qu'il va falloir trouver un équilibre. Les gens vont vouloir avoir une flexibilité et ça va devenir, pour moi, ça va devenir une demande des employés par rapport aux employeurs.
Ouais.
Une façon de dire, écoutez, moi, à quelque part, ça va devenir comme dans les conditions de travail. Et puis, je pense qu'il va falloir s'ajuster tous de cette façon-là, parce que c'est aussi une façon, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est une façon différente de gérer des équipes qu'on est moins habitué à distance, une autre façon de gérer les gens qu'il faut aussi aider nos gestionnaires.
Pourquoi les boss font ça, Jean-François? T'sais, je lisais encore dans la presse, je pense, il y a quelques jours, qu'il y a des patrons, ou je pense que c'était sur le site de Radio-Canada, qui exigent encore, malgré le fait qu'on soit en pleine pandémie, qui exigent une présence physique de leurs employés au bureau. En plus d'être irresponsables, ça aide pas nécessairement à faire un travail de qualité. Ça vient d'où ce sentiment-là de la direction de vouloir voir des gens physiquement pour avoir l'impression qu'ils travaillent bien?
Bien, c'est classique parce qu'on s'entend que historiquement, dans une usine, la manufacture, la meilleure façon de savoir si tu travaillais, c'était de te regarder travailler. Ouais. Puis à la limite, on voyait que tu travaillais, puis c'était de l'effort plus physique. Là, aujourd'hui, on est dans de l'effort intellectuel, puis on s'entend que tu as beau être au bureau, c'est juste toi qui le sais, si tu es en train de créer, de réinventer, si tu es en train de mettre ton énergie au travail. Ça se surveille pas tant que ça, mais oui, c'est un certain vieux réflexe qu'on peut avoir, que certaines organisations ont, de « si je te vois pas, tu fais rien ». Puis là, c'est toute la relation de confiance. Ça, là-dessus, je le comprends, ceci dit. T'sais, on peut se mettre du point de vue de l'employeur. Je paye des gens pour travailler, j'espère qu'ils travaillent, t'sais. Après, c'est là que je leur dis, ben la meilleure façon de le faire, appelle ton employé le matin à 9h, discute de son plan de travail pour la journée. Tu diras, on fera un suivi à 4h, voir où tu es rendu, comment je peux t'aider. Puis on voit que ça va faire la job autant que s'il était assis dans son bureau, tu sais. Donc, il faut trouver des façons alternatives pour les gestionnaires d'augmenter ce sentiment de confiance qu'ils ont envers leurs employés. Puis si on leur donne pas, ben des fois, le réflexe, c'est la seule façon que je sais pour savoir si tu travailles, c'est si tu es là, malheureusement.
Mm-hmm. Si je peux ajouter peut-être un petit point, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens vont rechercher quelque chose de différent au bureau qu'ils ont chez eux. Et ben c'est oui. Là que nous, on travaille avec certains de nos clients en ce moment pour repenser le coin café, pour avoir peut-être des moments, des plus de petits coins café pour générer justement la discussion avec les gens versus des grands coins café et leur offrir aussi quelque chose de différent à la maison que ce qu'ils ont au bureau et vice-versa. Donc, la même chose, on travaille avec nos employeurs, nos clients en ce moment pour dire, OK, vous voulez mieux les équiper, je dirais, à la maison. Donc, est-ce qu'on a des programmes en ce moment pour offrir des machines à café aux employés à la maison? Donc, des programmes qu'on travaille avec nos clients qui sont disponibles sur nespresso.com/pro. Donc, pour offrir, je dirais, plus de sentiment d'engagement aussi envers les compagnies à la maison.
Donc, de recréer un peu du bureau dans son environnement personnel. Jean-François, sur la question du design, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois des espaces complètement différents ou ça va rester comme on les imagine, des espèces de... T'sais, moi, quand je pense au futur du travail, je vois les espèces d'espaces sans nom là, où tout le monde peut s'asseoir n'importe où. On est-tu toujours là?
Ben, tu sais, l'espace ouvert là, qu'on a beaucoup valorisé les dernières années,
ben oui.
On voit qu'il y a des problèmes avec ça aussi parce que faible concentration. T'sais. Mais là, le problème, c'est qu'on ne travaillait pas à la maison non plus. Et il y a comme deux choses. Hein. Dans le fond, là, pour qu'il y ait de la performance, il y a l'attention puis le focus. Puis aussi la collaboration. Mais les deux sont difficiles à faire en même temps. Fait que, on revient au cubicule, c'est le pays des deux mondes. Je peux me faire déranger n'importe quand. Mais c'est pas vraiment un beau milieu pour collaborer. T'sais.
Donc, fait tu penses besoin, à quoi?
Ben, tu sais, à des espaces, par exemple, pour ce que je dirais le deep work. Y a-tu des espaces comme la bibliothèque? T'sais, quand on était à la bibliothèque, c'est le fun parce qu'il y a comme une ambiance de c'est le silence, c'est tranquille, mais je suis dans un environnement comme nourrissant. Mm-hmm. Là, je me concentre, puis ici, c'est le silence. Par contre, si je traverse la porte, puis on s'en va dans un endroit qui ressemble plus à un café, justement. Mais là, c'est là pour les interactions, pour le burstiness, pour la créativité, pour échanger, pour partager. Donc, de faire vivre ces mondes-là dans l'organisation. Peut-être que certains vont choisir qu'à la maison, puis on va t'équiper comme il faut, que ce sera avec la machine à café, peut-être, c'est ton moment de concentration. Puis après, quand on est au bureau, c'est pour les moments d'échange. T'sais. Mais c'est certain qu'on va avoir besoin de ces deux espaces-là parce que c'est un des défis. Si on collabore tout le temps, puis on est toujours en interaction comme dans les espaces ouverts, mais on ne se concentre jamais. Donc, ça nous prend cet espace-là aussi. Fait, comment on fait pour faire vivre les deux? Donc, ça va prendre ces différents espaces-là pour différents types de performances qu'on doit générer.
Si tu as à me faire, mettons, tes trois prédictions, Jean-François, sur le futur du travail.
OK. Ben, je crois prédiction, on va se retrouver dans quelques années. Ça va être beaucoup de travail à maison, beaucoup plus qu'avant la pandémie, mais moins que maintenant. C'est-à-dire qu'on va revaloriser les espaces de travail, puis on va peut-être les modifier, ces espaces de travail-là. Mais le travail à maison, ça va être dur de l'enlever aux gens maintenant qu'on l'a donné puis qu'on a vu que ça marchait. Fait que ça va être une chose. Puis je pense que c'est positif de savoir. T'sais, je pense aux gens qui vont écouter cette émission-là. Si on t'avait dit en 2019 que ton boss disait que maintenant, les mardis puis les jeudis, t'es fait de la maison, on aurait tous été « wow, c'est super ». Donc là, on est rendu dans l'autre extrême peut-être. T'sais. Donc, il va avoir, je pense qu'on va être dans la flexibilité sur où on travaille, du moins. Je pense que ça va poser des enjeux aussi en attraction, rétention de personnel. C'est-à-dire que ceux qui ne l'offrent pas, ben, ça va être vu comme un grand désavantage. Là, donc, on va tous s'étudier, les employeurs, d'un côté comme de l'autre. Deuxième partie, ça va être justement la qualité des environnements de travail. En termes de ce qu'on offre comme milieu, il va falloir que les gens aient le goût d'y aller dans le milieu de travail. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le goût de voir du monde, on le sait en ce moment. Après ça, si je peux t'amener mon dernier point,
oui,
ça va
sûr.
Être tout. Puis à quel point on va se rendre là rapidement, mais l'analytics par rapport aux espaces de travail, moi, ça me fascine un peu de voir qu'on va pouvoir reconfigurer nos espaces, par exemple, avec des sensors et d'être capable de dire, tu vois, tel genre d'espace est à peu près jamais utilisé pendant telle période de l'année, puis qu'on redesigne nos espaces de façon flexible en fonction de la période de l'année, de l'heure, de la journée. Et là, on va être capable de voir, entre guillemets, là, visualiser comment nos espaces sont réellement utilisés. Puis ça va être des logiques aussi de réduction de coûts, notamment par rapport à ça, parce que les espaces de travail, le pied carré coûte cher, on s'entend. Là.
Julie, comment est-ce que vous le planifiez, le retour au travail chez Nespresso? Et surtout, je pense que c'est le cœur de la question, qu'est-ce qui va être différent d'avant?
Et ce qu'on planifie, on est en train de regarder un petit peu le concept de nos espaces de travail, bon, pour s'assurer la santé, la sécurité des employés, de toujours faciliter les interactions. On n'est pas encore tout finalisé, là, c'est le travail qu'on fait, on est beaucoup à l'écoute des besoins des gens. Donc, à quelque part, ça va être vraiment cet équilibre-là. Parce que je reprendrai certains points de Jean-François, là, sans être une experte, moi, de design de bureau et tout ça, mais on sait que les gens veulent revenir à un certain niveau au bureau, ils veulent pour des raisons spécifiques. Donc, de revoir cette interaction-là, comment qu'on encourage l'interaction, d'avoir plus d'espace, mieux organisé, je te dirais, pour gérer cette interaction-là. L'engagement aussi, pour certains que ça leur tente peut-être pas, puis qu'on veut quand même qu'ils reviennent, comment on augmente l'engagement, d'avoir envie de revenir au bureau, va falloir offrir quelque chose qui leur parle. C'est pour ça que nous, comment on travaille avec nos clients, c'est de les aider sur l'aspect du coin café. Je reviens pour cette interaction-là parce qu'on sait qu'il est souvent mentionné. Puis la flexibilité, ça va être d'offrir la flexibilité à nos employés et aussi aider nos gestionnaires à gérer cette façon-là qui est différente. Je pense qu'on va s'adapter là-dessus.
C'est le mot-clé. Encore une fois, cette année, adaptation, on n'a pas fini. Jean-François Berthollet, merci beaucoup.
Merci, ça fait plaisir.
Julie Pomerleau, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup de l'invitation.
J'espère que vous avez apprécié la conversation qu'on vient d'avoir. Et question de vous récompenser un peu, voici un concours qui est exclusif aux auditeurs de Pour Votre Info. C'est la première fois qu'on fait ça. Julie a décidé de vous offrir un ensemble café de départ pour le bureau qui comprend une machine Nespresso professionnelle, mais aussi tout ce dont vous avez besoin pour offrir les fameux moments café dont elle nous a parlé, que ce soit à vos employés ou à vos collègues. Alors, c'est un beau concours, je trouve, et la façon de participer, c'est super simple. Vous allez sur la page LinkedIn de Pour Votre Info et vous commentez la publication qui se trouve sur la page, la publication du concours. Et on vous pose une question super simple. Où est-ce que vous allez la placer, cette fameuse machine, cet ensemble pour vos bureaux, lorsque vous allez y revenir? C'est tout. Vous avez jusqu'au 27 janvier pour participer et on va annoncer le ou la grande gagnante dans l'épisode de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 28 janvier. Maintenant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, c'est des nouvelles qui vous ont peut-être échappé ou que vous devriez savoir si vous êtes en affaires au Québec. WestJet fait de nouveau voler son Boeing 737 MAX au Canada. Selon CBC, Transport Canada a terminé sa révision de l'avion et les changements qui devaient être apportés à l'appareil pour qu'il puisse reprendre des airs ont tous été apportés. Cet avion avait connu, je vous le rappelle, deux écrasements tragiques en 2018 et en 2019, des incidents qui s'étaient soldés par la mort de 346 personnes, dont 18 Canadiens. De son côté, Air Canada souhaiterait faire reprendre du service à ses 737 MAX le 1er février. C'est certain que c'est une bonne nouvelle pour Boeing, le constructeur aérien américain, mais les voix de différentes familles des victimes s'élèvent toujours pour s'opposer au retour de cet appareil dans le ciel. Et il y a un sondage qui a été mené par WestJet qui montre qu'une majorité de voyageurs souhaitent ne pas voler à bord de cet appareil. Le Soleil révèle que les experts économiques de la ville de Québec sont assez optimistes quant à la reprise économique de la capitale québécoise en 2021. Avec l'arrivée de la COVID-19, le PIB de la ville avait baissé d'environ 7 % et des pertes d'emplois s'étaient situées à peu près à 35 000 postes. Or, la campagne de vaccination, le fait que les entreprises soient prêtes à rebondir, les économies qui sont engrangées par plusieurs Québécois en ce moment et l'arrivée à la présidence de Joe Biden sont autant de bases solides pour la relance, selon eux. Alors, si tout va bien, l'économie de la ville de Québec pourrait être revenue à son niveau d'avant la pandémie d'ici environ 18 mois. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à Charles Prémont qui assure la recherche et la coordination de Pour votre info. Et chez Nespresso, merci à Laurence Pérusse et Valérie Landreville. Je m'appelle Laurent Thérien. On se reparle la semaine prochaine.